Pierre a découvert l'apiculture avec le woofing dans trois différentes exploitations apicoles. Et il décide maintenant de devenir apiculteur professionnel à 33 ans. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue sur Tribu Happy, le podcast du blog mespremièresruches.com qui vous aide à apprendre et comprendre l'apiculture. Dans cette interview, j'interviewe Pierre, 33 ans, qui va nous raconter son histoire. Bonjour Pierre.
Bonjour Guillaume.
Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît?
Bien sûr, donc je m'appelle Pierre, j'ai 33 ans et j'habite actuellement à Lyon. Je travaillais auparavant en tant que directeur de projet pour un grand groupe de location et de maintenance de matériel roulant. Donc tout ce qui était semi-remorque de différents types, tout ce qu'on met derrière un tracteur. Donc je m'occupais des projets de construction, des projets d'acquisition de nouvelles agences. Et donc, j'ai décidé de quitter cet emploi en début d'année pour me consacrer à l'apiculture.
Comment cette pensée t'est venue? Est-ce que c'était très brusque ou est-ce que c'était... apiculture, tu parles d'apiculture professionnelle.
Oui, tout à fait. Oui, pas amateur. C'est vraiment une reconversion professionnelle dans l'apiculture. Et donc, j'ai toujours travaillé en continu depuis mes 18 ans. J'ai jamais fait de pause. J'ai toujours fait des études, travaillé, etc. Et j'ai toujours été aussi proche du monde rural, parce que mes parents habitent en campagne, en Bourgogne. Donc quand j'étais petit, je faisais toutes mes vacances à la ferme, j'avais également des petits travails saisonniers, on va dire. Et donc, on va dire 15 ans dans le monde du secteur privé, dans le monde un peu classique, on va dire, dans diverses entreprises et dans divers endroits de la France et à l'étranger, eh bien, j'ai décidé donc d'écouter mon moi intérieur, on va dire, et donc de me reconnecter sur le monde agricole, sur la nature, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée déjà, j'avais l'idée de faire un élevage, d'élever des bêtes ou autre chose. Et puis, j'ai essayé l'apiculture qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Et donc, je pense avoir trouvé ma voie.
Et comment c'est venu l'apiculture? Quelle expérience antérieure tu avais eue?
Alors, en fait, je me suis concentré sur... j'ai essayé de me remettre ou de me réimaginer quand j'étais petit enfant. Avant que la société ou mes parents ou les fréquentations m'orientent vers une direction, en fait. Et donc, je me rappelle d'une visite dans un rucher en étant très petit, avec des ruchers vitrines ou des ruchers écoles où on peut voir les abeilles vivre à l'intérieur d'une ruche, etc. Et donc ça m'avait assez fasciné. Donc, c'est revenu comme un petit flash en me questionnant, en essayant de retourner dans mon passé. La volonté de préserver la faune, la flore, etc., de travailler en extérieur, d'être son propre patron, donc tout ça m'a mené vers l'apiculture. Donc j'ai décidé tout de suite après avoir quitté mon travail d'aller voir un apiculteur qui était à côté de chez moi, et donc ça a confirmé mes choix, mon souhait de m'orienter vers cette direction. Complètement zappé de parler de ça, mais l'année dernière, j'avais fait un bilan de compétences aussi. Et donc, c'est ça aussi qui m'a orienté. Mais oui, on voyait que mes attachements, en fait, étaient plutôt du côté terre.
Et là, la décision est prise dans le sens où vous commencez maintenant ou comment ça va se passer?
Alors, donc, depuis le mois de février-mars, j'enchaîne les séjours en immersion chez des apiculteurs, chez différents apiculteurs en mode woofing. Donc, c'est, on prête nos bras, on va dire, en échange du gîte et du couvert et puis de la découverte d'un métier, la rencontre avec des nouvelles personnes. Donc j'ai déjà fait des séjours chez trois différents apiculteurs avec des profils bien différents, hein. Le premier était plutôt vente en gros, augmentation du cheptel, etc. Ça c'était en Isère. Le deuxième est plus sur un schéma traditionnel, familial, car son père était apiculteur. Lui est en train de reprendre ça et c'est de la vente directe uniquement. En majorité, presque à quasi 100% aux gens du village ou aux touristes de passage. Donc ça c'était dans les Hautes-Pyrénées. Et puis j'ai vu aussi un autre apiculteur qui est maintenant à la retraite et qui diminue son cheptel, lui, et qui vend uniquement aux grandes surfaces. Donc le premier était sur, on va dire, 350 ruches, donc je pense qu'il veut monter jusqu'à 500. Le deuxième qui fait de la vente directe est plutôt sur 350 ruches avec un petit peu d'aide de son papa.
Oui.
Et le troisième qui diminue son cheptel est actuellement à 100 ruches.
100 ruches, d'accord. C'est génial d'avoir vu les trois environnements différents. Et oui, je me souviens aussi du message que vous aviez mis sur Facebook parce que je souhaitais explorer différents courants apicoles, notamment dans d'autres pays.
Exactement.
C'est vrai que je me questionne souvent sur... on connaît notre manière de pratiquer l'apiculture comme notre manière de travailler comme ça avec les ruches, mais en fait, il n'y a pas que notre manière, il y en a d'autres dans d'autres pays du monde qui sont aussi différentes.
Tout à fait.
Notre cheptel avec ce nombre de ruches, avec le système de distribution où ça peut être la vente en gros, ça peut être la vente directe. Il y en a qui le font directement, qui vendent à des pâtissiers, par exemple,
oui.
Pour transformer le miel. Et là, avec tes questionnements et les réponses que tu as eues sur Facebook, vers quoi tu vas t'orienter? Est-ce que tu vas partir à l'étranger? Est-ce que...
Alors, je cherche toujours une destination à l'étranger. C'est vrai que j'essaye d'aller à La Réunion parce que, sur l'île de La Réunion, parce que j'avais beaucoup aimé cette île et c'était d'ailleurs un petit peu le déclic qui m'avait fait prendre conscience des choses importantes, on va dire, parce que c'était un voyage que j'ai fait l'année dernière. Donc, ça a aidé aussi dans mon travail de reconversion ou de réflexion par rapport à ce que je voulais vraiment. Bon, c'est un petit peu compliqué d'aller à La Réunion au niveau de l'apiculture parce qu'apparemment c'est assez saturé. Voilà, il y a pas mal d'apiculteurs là-bas et donc les ressources sont de moins en moins nombreuses pour les abeilles, sûrement. Mais oui, voilà, mon but c'est de rencontrer encore d'autres apiculteurs. Je sais que je vais retourner voir ceux que j'ai déjà vus plusieurs fois dans l'année, hein, pas qu'une seule fois pour voir un petit peu une saison complète et voir différentes pratiques encore une fois. Mais c'est vrai que oui, sur les trois que j'ai rencontrés, déjà les trois ont une manière de gérer leur rucher de manière très différente. Donc, par exemple, la personne qui s'en va à la retraite laisse essaimer complètement ses ruches. Voilà, les trois ont des matériels totalement différents, travaillent des abeilles différentes également. Il y en a qui changent leur reine tous les ans, d'autres non. Donc ça me fait déjà voir quand même pas mal de choses, je trouve.
En termes de race aussi, qui est en termes de race travaillée.
Oui.
En termes de taille de ruchers également. Il doit y avoir des ruchers qui sont parfois très concentrés, d'autres qui sont plus éparses.
Oui, exactement. Alors c'était aussi intéressant de voir ça avec le premier apiculteur qui fait de la vente en gros parce qu'il est en bio et donc il est limité par rapport au nombre de ruches qu'il peut mettre dans un rucher. Chose que les deux autres ne font pas finalement.
Est-ce que tu as entrepris un cycle d'études, soit syndicat, soit les ruchers écoles, soit une formation? Je crois que pour en France, pour devenir apiculteur professionnel, tu es obligé de suivre un cycle d'études.
Alors, il me semble qu'on n'est pas obligé, la formation n'est pas obligatoire. Par contre, on est obligé de suivre le BPREA pour pouvoir bénéficier des aides d'installation aux jeunes agriculteurs. Mais il n'y a pas d'obligation de formation, on va dire, pour devenir apiculteur en France.
À part donc le BPREA, brevet professionnel responsable d'entreprise agricole.
Tout à fait.
Et là, tu peux prendre une spécialité?
Et donc, en fait, c'est les BPEA avec une option apicole. En fait, je me suis intéressé aux ruchers écoles, etc. Bon, je voyais qu'ils proposaient des formations ou des interventions à leurs ruchers, mais c'était une fois par mois, le week-end, etc. Et moi, étant donné que je suis persuadé de mon choix et de ma reconversion, j'ai envie d'aller un peu plus vite et d'engranger un maximum de connaissances sans attendre un week-end par mois, etc. Ensuite, donc, reste la question du BPEA. Est-ce que je vais faire cette formation, notamment pour bénéficier des aides financières ou non? Je ne sais pas encore. J'ai regardé les programmes de formation. C'est vrai qu'il y a pas mal de domaines comme les bilans financiers, le domaine comptable, le domaine de la communication, etc. Bon, c'est des choses que je maîtrise déjà parce que je manipulais des fichiers financiers, des bilans financiers dans mes précédentes expériences, je menais différents projets. Donc j'ai déjà certaines connaissances, on va dire, de la gestion d'une entreprise. Donc je ne sais pas après quel est l'apport vraiment, s'il sera conséquent ou non de cette formation.
Ouais, c'est bien réfléchi en termes de piliers en disant, bon, t'as un pilier, donc tu disais, t'as la communication, T'as les finances, t'as le matériel, gestion du matériel, la rotation et entretien du matériel, et notamment référencement. C'est important de savoir ce qu'on a en stock. Il y a la partie, il y a les normes alimentaires quand même qui sont assez.
Tout à fait, oui. Il faut des normes sanitaires et alimentaires, oui.
Après, il peut y avoir également la gestion humaine, notamment contractuelle, si tu fais appel à des saisonniers parfois.
Oui.
Si t'es installé, après, faut voir si, enfin, suivant la taille du chez tel que tu voudras avoir, mais il y a quand même des contrats à rédiger.
Mais oui, c'est vrai qu'à part, enfin, c'est peut-être un peu un but de ce que je vais dire, ou pas très un, mais à part le côté sanitaire, réglementaire, pour l'instant, je pense maîtriser à peu près, peut-être de loin, tous les domaines. Hein. Bon, c'est peut-être une erreur de ma part, je vais continuer à investiguer sur les programmes de formation, mais bon.
Au moins, tu veux te lancer. Tu vas pas ruminer ça en disant pendant des semaines, des mois et des années. Ouais, j'ai l'impression que tu avais plus envie de te lancer vite.
Oui, tout à fait, oui. Avec un parrain ou une exploitation à reprendre, avec encore une fois un parrain, oui, c'est sûr. Je ne compte pas me lancer tout seul, 100% sur cette activité, c'est sûr.
Quand j'avais interviewé Jean Riondet, il expliquait que la grande difficulté pour les professionnels, c'était de maîtriser ses canaux de distribution. Tout le réseau de distribution, qu'il soit en vente directe, en vente en gros, pour être sûr que déjà, avant tout, bien assurer ton prix de vente. Ton prix de vente et la régularité de tes ventes pour avoir la visibilité commerciale, parce que en fait, le miel, tu le vends, enfin, tu le produis qu'à un certain moment, et c'est faut arriver à lisser l'ensemble de ces coûts.
Oui.
On l'année parce que le revenu en fait est très irrégulier.
Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis ne pas vendre également tout d'un coup pour ne plus avoir de miel 2 mois après. Et
ouais.
Ouais, sinon l'acheteur change de vendeur,
oui.
De fournisseur.
Ouais. Avoir aussi, il y en a qui passent en vente directe. Je pense que tu as plus en temps, la rentabilité est meilleure. Par contre, le temps consacré est bien plus long. Mais au moins, tu es sûr que tu. Enfin, oui, combien d'intermédiaires tu penses avoir, en fait, comme lorsque tu vas en supermarché, et plus d'intermédiaires, et plus le prix de vente pour toi sera moins intéressant.
Ouais, exactement. Ouais. Bon, je cherche à en avoir le moins possible, c'est sûr. Après, bon. C'est vrai que j'aime bien aussi le contact client. Je trouve intéressant de vendre soi-même son produit et de pouvoir en parler au client final, même dans un aspect écologique, etc. On s'y retrouve. Donc. Moins de transport, moins d'intermédiaires, plus de transparence, plus de vraies relations, on va dire.
T'aimerais te lancer quand?
Eh bien, c'est une grande question. Je m'étais laissé, en fait, cette année pour décider du modèle d'apiculture que je voulais et de l'endroit, surtout. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'attache nulle part. J'ai déjà beaucoup... J'ai fait beaucoup de déménagements. Mes parents ont beaucoup déménagé en France. Pareil, j'ai eu des expériences un petit peu partout pour le travail. Donc, je n'ai pas vraiment d'attache ou d'obligation par rapport au secteur. Donc, ça va être vraiment au coup de cœur et aux opportunités. Pour l'instant, je pense m'installer donc dans la moitié sud de la France. Alors, j'ai deux options, soit entre Lyon et Valence pour rester quand même pas très loin de ma famille et de mes amis actuels. Ou soit de rejoindre une autre région comme l'Occitanie, les Hautes-Pyrénées, où là, je trouve que l'environnement de travail et les ressources sont bien meilleures que par chez nous, qui est une région assez saturée aussi. Donc, bon.
Oui, il doit y avoir des cartes qui représentent un peu la densité apicole.
Oui,
région.
Et je crois que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la région où on compte le plus d'apiculteurs.
Ah bon?
Donc,
c'est quoi, c'est l'ADA, l'aide au développement de l'apiculture qui
donne l'ADA aura pour notre région, ouais.
D'accord. Mais c'est vrai que par rapport aux aides, je crois que tu dois avoir un budget européen et plus il y a d'apiculteurs référencés, qui s'inscrivent en France, par exemple, et je crois plus le ratio de budget consacré à le développement de l'apiculture en France est conséquent.
Oui.
Attends.
Il me semble, pour bénéficier de cette aide, donc installation jeune agriculteur, il me semble qu'il fallait pouvoir se dégager un SMIC au bout de 4 ans. Et donc le montant de l'aide était autour de 30 000 euros.
Aide européenne, tu dois avoir des aides nationales et des aides aussi régionales.
Certainement, oui. Ça, je ne me suis pas encore penché là-dessus, étant donné que je ne connais pas encore la région.
Et pour l'instant, est-ce que tu sais un peu le type d'apiculture que tu voudras, que tu vas pratiquer? Type d'apiculture, le type de ruche, le nombre un peu enfin, la taille de tes ruchers. Quelles sont pour l'instant tes convictions, en fait?
Alors, pour le peu que j'ai pratiqué, donc je choisirais des ruches d'Adam, probablement 10 cadres ou 12 cadres, avec des cadres, alors je ne suis pas sûr de terme, on dit Hoffman.
Oui, enfin, oui, cadre Hoffman, c'est ça, oui.
Cadres Hoffman, donc dans les ruches d'Adam, qui sont plus pratiques à manipuler ou à réinsérer pour pas écraser les abeilles. Après, donc, sur la commercialisation, donc j'aimerais bien faire uniquement de la vente directe si je peux, si j'ai le temps, si j'ai les clients, etc. Et au niveau de l'abeille en elle-même, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur Buckfast, caucasienne, etc., abeille noire, enfin. Moi, je pense que j'étudierais déjà les abeilles enfin, que les apiculteurs ont eu l'habitude d'élever dans le secteur que j'aurais choisi. Et puis ensuite, donc, je prendrai ma décision.
C'est bien vu ça, d'arriver à voir ce qu'on appelle un peu l'écotype.
Oui, ce qui m'intéresse en apiculture, j'en avais parlé un petit peu au début, mais oui, donc c'est travailler en extérieur, ne plus travailler dans un bureau, travailler avec des êtres vivants, fournir des produits de consommation de qualité, préserver aussi le monde du vivant, la faune et la flore. Voilà, parce que apiculteur, c'est pas seulement élever ou gérer un rucher ou des abeilles, c'est aussi bah, prendre en considération la faune et la flore voisine. Et puis donc, on peut aussi mener des actions par rapport à la protection ou au développement de cette flore ou cet environnement.
Est-ce que c'est quand tu as réalisé ça, c'est venu petit à petit ou c'était vraiment un gros coup? Enfin, c'est venu, oui, c'est venu brusquement.
Je savais que j'avais envie d'arrêter complètement ce que je faisais, donc travailler dans un bureau avec un ordinateur, etc. Ça, c'était sûr que je ne voulais plus, enfin du moins hein, le faire en permanence. Ce dont j'étais convaincu aussi, c'est que je voulais être mon propre patron et arrêter de travailler pour des actionnaires. Et avoir vraiment un résultat direct de nos efforts, de notre sueur. Voilà, donc c'était mes premières convictions. Et puis de se reconnecter au monde naturel, au monde du vivant, ça c'était aussi une part importante de mes convictions que j'avais envie d'assouvir.
D'accord. C'est vrai que tu parles de résultat direct quand tu travailles bien ou quand tu travailles mal, là c'est sûr que tu verras directement en fait comment le résultat
Oui.
de la gestion de ton rocher. Après, il y a une partie sur laquelle tu as un impact et une autre non. Bah, par rapport à la météo, c'est enfin, quand il n'y a pas de mielée, il n'y a pas de mielée en fait, ça s'invente pas malheureusement.
Oui, on n'a pas encore créé les milliers artificiels.
Pour toi, par rapport aux sources de revenus, pour l'instant, tu penses miel, mais est-ce que tu penses à d'autres sources de revenus? Par
Oui,
exemple, enfin oui, vas-y, dis-moi.
alors donc je pense bien sûr au miel, là, donc ça c'est la base, c'est certain. Mais je pense aussi donc à tout ce qui est récolte de pollen, travail également de la propolis. Moi, je m'étais intéressé aussi à la gelée royale, mais je vois que c'est assez. Enfin, ce n'est pas évident parce que des exploitations entières sont consacrées à ça et travaillent déjà avec des laboratoires, etc. Donc, il y a des contrôles, je pense, sanitaires qui sont bien plus conséquents. Et puis, bon, pouvoir être rentable sur ce secteur, faut en avoir, je pense, un sacré paquet. Donc, voilà, peut-être pas de la gelée royale, mais oui, tous ces produits déjà de base de la ruche, et puis après il y a la transformation en produits alimentaires qui m'intéresse beaucoup, comme le pain d'épices, voilà, d'autres friandises ou gâteaux à base de miel. Enfin, voilà, y a tout un tas de choses à faire après en produits dérivés.
Est-ce que par exemple des découvertes un peu du rucher ou feu de la formation, tu as envisagé ça dans un
Oui,
sens?
tout à fait. Ça, c'est donc plutôt pour le côté social. Donc, une fois que je serai vraiment installé et, on va dire, stable dans ma pratique et au point de vue financier aussi également, bien sûr. Ouais, mon but, ça serait d'accueillir donc des jeunes oui, des jeunes en, peut-être en mauvaise situation, qui veulent se réorienter, ou des jeunes en réinsertion, voilà, ce genre de choses, même faire découvrir des donc c'est ce système d'apiculture à des écoles, à des jeunes enfants. Enfin voilà, je suis vraiment ouvert à tout là-dessus, et ça m'intéresserait beaucoup de le faire, parce que je pense que pratiquer l'apiculture, c'est quelque chose qui amène de l'apaisement et du recentrement sur soi-même, on va dire. Donc je pense que ça peut être très utile pour certains types de personnes qui sont en difficulté ou un petit peu perdues dans leur vie.
J'ai fait une interview de l'association Happy Culter.
Oui.
Et eux, ils ont installé des ruches dans une prison.
D'accord.
Quelque part à Paris. Je sais plus comment s'appelle cette prison-là. Et en fait, ils initient. Le but, c'est pas que les personnes qui sont responsables des ruches deviennent apiculteurs professionnels, mais c'est au moins, bah oui, apporter un aspect de, enfin oui, d'apaisement, parce que si t'es énervé, ça va vite te calmer.
Parce ouais, exactement.
Que les abeilles vont le sentir. Mais oui, en tout cas, ils proposent à certaines personnes, enfin à certains prisonniers de venir ouvrir les ruches avec
ouais, c'est eux.
Leur apporter un aspect de contact, mais par contre, pas dans une démarche de devenir ensuite apiculteur professionnel.
D'accord. C'est quelque chose de génial, ouais. C'est comme on voit beaucoup de centres de réadaptation, de réinsertion qui travaillent avec des chevaux, par exemple, qui apportent aussi beaucoup d'apaisement. Et puis, même le fait que ce soit des chevaux ou tout autre animal ou des abeilles, on se reconnaît quand même quelque chose à la nature, à quelque chose de concret, et non pas aux télévisions, à Internet, etc. Donc, ça apporte, je pense, quelque chose qui est de plus en plus nécessaire à l'heure du virtuel.
Par rapport au matériel que tu envisages de prendre, il y a du matériel. Est-ce que tu penses, par exemple, mutualiser certaines parties de ton matériel, par exemple la miellerie, ou est-ce que pour l'instant tu veux acheter ton propre matériel?
Je pense que au départ, pour démarrer, ça va être dur d'avoir ma propre miellerie, ou alors elle va pas être très bien équipée. Donc, je pense trouver un parrain ou une miellerie partagée ou quelque chose dans ce sens-là. Oui.
T'as des sociétés. Des sociétés qui se créent, mais surtout entre agriculteurs. Et là, oui, ils partagent. Là, c'est. T'as une ferme centrale, chacun ses champs, et le matériel, là, il est partagé. Mais par contre, je ne sais pas comment ils font pour leur gestion.
Comme des GAEC.
Oui, voilà, exactement. Exactement, oui. C'était ça, oui.
Oui, c'est le but. Ça ne sert à rien de chacun avoir. Après, ça dépend du nombre de ruches que chacun a, mais. Si, pour des petits à moyens apiculteurs, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir chacun. Du matériel qui coûte extrêmement cher juste pour son utilisation propre, alors qu'on peut le partager.
Oui.
Et donc mutualiser les coûts, s'entraider, etc.
Et par rapport, je pense que aussi une variable importante au moment de ton installation, ce sera la relation que tu auras avec les agriculteurs du coin. Souvent, on met un peu en affrontement les agriculteurs et les apiculteurs, alors que c'est pas forcément une bonne chose, parce que les agriculteurs apportent beaucoup de ressources aux apiculteurs, et les apiculteurs permettent un grand développement, suivant après le type de culture qu'ils font, mais aux agriculteurs. Et je pense que c'est un aspect qui sera important, parce que souvent on rivalise les deux métiers.
Oui.
Sans que ça soit vraiment très, très pertinent, même si, oui, il y a des syndicats très forts au sein de l'agriculture qui défendent un peu leur précaré et, on pense à certains liens avec des industries agrochimiques.
Oui.
Mais je sais pas si toi, comment tu penses développer ta relation avec les agriculteurs du coin?
Bah, je pense qu'on, pour la plupart, on fait le même métier, hein, on élève du vivant, donc on dépend vraiment de la nature et des conditions météo, etc. Donc, eux, bon, ont suivi, certains ont suivi un type d'agriculture qui était. La norme il y a quelques années. Maintenant, on revient à des pratiques un peu moins toxiques ou un peu plus respectueuses de l'environnement. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à se rapprocher à se rapprocher de ces agriculteurs, parce que finalement, bon, on est liés par les mêmes éléments. Donc, autant bien s'entendre et travailler en accord.
Mais quand même. Quand on pense à une personne qui veut s'installer en tant qu'apiculteur professionnel, on ne se le cache pas, c'est difficile en fait. C'est très très difficile pour les apiculteurs professionnels de vraiment en vivre.
parce que il y a des coûts, enfin il y a des, enfin il suffit d'aller au supermarché et il y a cette vidéo qui le montre, enfin de photos qui le montrent en disant bah regardez le prix du miel, c'est, on est quasiment à 1 ou 2 euros le kilo. On dit mais comment, enfin comment ça se fait, et on critique beaucoup l'origine des miels en termes de vie. Enfin est-ce que t'es, comment tu t'apprêtes à affronter ça, cette, parce que c'est très difficile, je sais pas comment ça va, enfin c'est difficile de savoir comment ça va évoluer, mais comment tu, enfin je pense que les apiculteurs professionnels avec, chez qui tu as été ont dû t'en parler, et comment tu comptes justement te débrouiller pour t'installer et arriver à en vivre décemment. Oui, parce que le prix du miel, enfin, c'est un débat, c'est un grand débat souvent sur le groupe Facebook quand on dit bah, combien vous vendez votre miel, dès qu'on parle d'un coût à 15 ou 16 euros le kilo, bah, y a des personnes qui disent oh, mais c'est, enfin, c'est beaucoup trop cher, c'est honteux. Enfin bref, je trouve que le prix du miel actuellement est beaucoup plus bas que le prix qu'il devrait être.
Oui, non, il n'est pas valorisé à sa juste valeur, ça c'est sûr. On ne peut pas vendre un kilo de miel 5 euros quand on pense aux efforts qu'il a fallu mettre en place pour récolter ce kilo. Non, c'est quelque chose qui est inconcevable. Non, déjà, je pense que... Bon, déjà, je me suis reconverti dans ce domaine. Ce n'est pas pour faire fortune, c'est pour avoir un autre cadre de vie. Donc, mon salaire, je l'aurai tous les jours... de manière non financière, on va dire, de manière concrète. Donc déjà, je gagne cet aspect de vie, une vie bien meilleure, je pense, voilà, moins polluée. Donc déjà, ça fait partie, enfin, je considère que ça fait partie de ma rémunération. Ensuite, après, vivre décemment, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, moi, j'avais un très bon poste avec un salaire assez important, pour mon âge en tout cas, et donc finalement, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Bon, bah, on achète des objets, on multiplie, on va dire, les plaisirs dans des endroits chers, etc. Mais est-ce qu'on a besoin de ça tout le temps et dans cette ordre de grandeur? Je ne pense pas, donc... enfin, voilà... En étant apiculteur, on peut aussi avoir une petite activité à côté, avoir un potager, faire du troc également avec d'autres éleveurs ou d'autres paysans, et comme ça récupérer aussi des denrées. Voilà, donc c'est tout un mode de vie qui a repensé. Et je ne pense pas qu'en vivant simplement, on ait besoin de 3 000 euros ou plus de 2 000 euros pour vivre. Je ne pense pas. Donc bon, je suis conscient de cet aspect, je suis conscient aussi de l'aspect enfin qu'on soit lié à la météo et qu'il peut y avoir des années très très mauvaises, etc. Mais bon, je garde ça en tête, mais ça ne m'effraie pas plus que ça.
D'accord. Tu parles de mode de vie, on parle quasiment de, enfin, mode de vie, de philosophie de vie également, comme tu dis, des salaires élevés, c'est après, c'est un peu une course à avoir plus et dépenser.
Oui, c'est ça. On veut toujours plus, hein. Et c'est ce que, enfin, ma génération, nos parents nous ont poussé de faire un bac le plus général possible pour avoir le plus de portes ouvertes par la suite, de toujours essayer d'évoluer dans son poste, etc., etc. Mais finalement, c'est une course infinie parce que, on veut toujours évoluer, mais pourquoi finalement? C'est surtout pour le salaire. Hein, enfin, certes, on va apprendre d'autres choses, on va avoir plus de responsabilités, mais encore une fois, c'est lié au salaire. Je pense qu'on met un petit peu trop l'accent sur le salaire et le cadre de vie ou le niveau d'études. On devrait peut-être plus se reconcentrer sur les valeurs humaines et la richesse humaine qu'on peut mettre en place.
Et le cadre de travail également. Le fait d'aller au travail et de voir à chaque fois un horizon, c'est vrai que ça doit avoir un impact sur ta santé, sur ta santé mentale aussi. Enfin, tu respires, quoi.
Exactement. Et ça fait tant d'argent en moins qu'on va mettre dans la santé.
Absolument. Donc là, pour ton futur, tu me disais que tu avais envie de... Enfin, tu vas pour l'instant peut-être la Réunion. Enfin, tu aurais envie peut-être d'aller faire du coaching à La Réunion?
Oui.
Oui, ok.
Enfin, j'ai envie, mais bon, c'est compliqué, donc je ne pense pas que ça va se faire, à moins que quelqu'un m'appelle ou m'envoie un message, mais ça a l'air très compliqué. Donc je pense pour l'instant continuer cette année en France, et puis je verrai après par la suite. Déjà, si je peux avoir une idée de l'endroit où je vais m'installer avant la fin de l'année, ça serait pas mal.
D'accord.
Donc je cherche aussi, il y a un site internet qui regroupe les exploitations à reprendre, ça s'appelle RDI, répertoire, je ne sais plus les initiales, c'est le RDI, et donc on a toutes les exploitations agricoles de tout type qui cherchent un repreneur. Et donc RDI, donc c'est oui, le répertoire départ installation, et donc dessus on a une catégorie apiculture, enfin élevage de ruches, c'est noté comme ça.
Des fermes apicoles, c'est génial de savoir ça.
Donc voilà, j'essaye de regarder un peu partout. Il y a le site aussi de l'ADA Occitanie qui est très bien fait pour ça, parce qu'il y a une catégorie petites annonces. Et donc on a des petites annonces de revente de matériel, d'offres de stage ou de parrainage. Il y a également une catégorie pour des exploitations à reprendre. Chose
D'accord.
que toutes les ADA n'ont pas. Donc
D'accord.
c'est un bel atout pour la région Occitanie.
Et quand on parle d'installation, enfin, le fait d'installer dans un nouveau métier, il y a quand même des barrières à l'entrée. Pour toi, est-ce que les barrières à l'entrée sont assez élevées ou pas? Par exemple, alors, en termes de diplôme, tu dis qu'il y a juste un brevet, donc la barrière enfin, du diplôme est assez peu limitante. En termes de fonds, est-ce qu'il faut des fonds conséquents?
Alors au niveau de l'investissement, oui, je pense que pour démarrer déjà au niveau des ruches, il faut peut-être une dizaine de milliers d'euros, je pense.
Ok.
C'est ce que j'avais calculé à peu près. C'est ce qu'on m'a dit aussi comme chiffre pour démarrer convenablement. Pour avoir plus d'une centaine de ruches, il faut une dizaine de milliers d'euros avec un petit peu de matériel, etc. Voilà. L'autre barrière, oui, c'est faire sa place et enfin déjà réussir à avoir du miel en conséquence ou suffisamment, et puis réussir à développer ou à créer son réseau de distribution si on n'en a pas encore un. Bon, ça, c'est les deux principales choses.
Sais pas si tu as vu l'information à Quimper, il y aura une grande convention en octobre.
Oui, j'ai vu ça.
Tira?
C'est une possibilité, oui.
Possibilité.
Je vais déjà à la réunion bilan annuel, on va dire, de la région Aura, qui se déroulera à côté de Lyon, le 18 et 19 octobre, donc pour faire le bilan en fait sur la saison passée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vais déjà me rendre là-bas pour faire connaissance avec les apiculteurs et voir un petit peu ce qui. Voilà, les nouvelles pratiques ou le bilan, bon, rencontrer du monde.
Jean Riondet, ça te parle?
Jean Riondet, non.
Ah non, ça te parle pas, ok. C'est un apiculteur qui doit avoir. Si m'écoute. 60 ou 70 ans, je l'avais interviewé à un moment. Il a
D'accord.
écrit beaucoup de l'ouvrage sur l'apiculture. Il n'est pas professionnel, mais il s'est beaucoup, beaucoup intéressé aux pratiques apicoles. Et lui, il promeut une méthode, non pas qu'il a inventée, mais. Qui pour lui est très fin, aide beaucoup au développement des ruches, c'est les partitions isolantes à haute densité. Donc le fait de mettre des partitions réfléchissantes des deux côtés de la ruche pour que le couvain passe très bien l'hiver. Et il y a beaucoup d'apiculteurs qui le considèrent comme une référence en termes de formation. Il s'appelle oui, Jean Riondet. Il est basé dans le sud de Lyon.
D'accord.
Et vraiment, j'ai trouvé très intéressant d'échanger avec lui. Il a écrit plein de bouquins. Il est sympa comme tout. Peut-être qu'il pourrait donner aussi des conseils ou accès à un réseau aussi d'apiculteurs si tu veux t'installer aux environs de Lyon.
Ouais, très bien, ouais. Avec plaisir.
Il écrit La ruche mois par mois, L'élevage de rennes et je sais plus quel ouvrage. Et en fait, il a une formation en ligne que j'avais pris, que j'ai trouvé aussi très bonne. Et généralement, une fois par mois, il fait intervenir aussi des personnes sur. Pour parler de certains points clés de l'apiculture, pas que
D'accord.
l'âge, mais oui, les partitions notamment, et je trouvais vraiment Et après, Léandre, d'une saison d'abeilles, tu dois le connaître.
Oui, je suis abonné à pas mal de chaînes YouTube et Léandre en fait partie, oui. Il a du succès avec ses vidéos qui sont assez bien faites, hein, faut s'avouer. C'est
Oui.
vraiment très.
C'est bien fait, il se fait. Enfin, il a le coup de bourre de la mi-saison où là, tu vois vraiment quand tu vois dans quel état mental et physique il est, c'est d'être
Oui.
épuisant à ce moment-là. Après, il a entre 300 et 500 ruches, je ne sais plus exactement.
Oui, c'est ça, ouais.
Point de vue des apiculteurs professionnels, j'ai l'impression que c'est un peu, enfin, c'est un peu une des pontes. Et en plus, on voit bien tous les aspects de ce qu'il fait, la vente du miel, il en parle, son matériel également, la gestion de son matériel,
Oui.
il en parle aussi beaucoup.
Oui.
Ça, c'est précieux.
Oui, c'est bien parce qu'il, du coup, il teste différentes méthodes qu'il a vues ou entendues ailleurs et donc il l'essaye et peut-être qu'il, des fois, il continue avec cette méthode, des fois, il revient à son ancienne méthode, des fois, il en prend une nouvelle. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant à voir. Tout comme sur Facebook où il y a des groupes apicoles qui existent. Et donc, quand quelqu'un expose un problème, on a différentes versions de solutions, on va dire, et donc chacun débat sur la meilleure solution, et on comprend du coup pourquoi cette solution n'est pas la plus adaptée, pourquoi il faudrait plus choisir une autre. Ça, c'est assez intéressant. Ce sont des groupes que je consulte quotidiennement, justement, pour voir les différents problèmes qui peuvent arriver et les différentes manières de réagir, parce qu'il n'y a pas une seule bonne manière, je pense. Donc, c'est intéressant d'avoir le débat, les arguments de chacun, etc.
Absolument.
Et
Même si,
aussi, pardon?
même si c'est, t'as la beauté de Facebook aussi, où il y a des personnes qui disent des choses, tu fais, mais...
Oui.
Oh, sérieux?
Oui, y a à boire et à manger, hein, c'est Internet. Et en termes d'ouvrage littéraire, il y a aussi Monsieur Nicolet.
Oui, Bernard Nicolet, c'est ça,
Bernard
oui.
Nicolet, oui, qui est pas très loin aussi de Lyon et qui est très compétent, qui organise des formations, qui fait de la vente de ruches avec des essaims à l'intérieur. Oui, vraiment très très calé sur le sujet, en tout cas. J'ai lu pas mal de livres aussi qu'il avait édités.
Oui, si tu devais recommander les livres de référence pour toi, donc tu citerais ceux de Bernard Nicolet.
Oui.
Est-ce que tu en as d'autres qui viennent à l'esprit?
J'en ai d'autres, mais je me rappelle plus des noms. Je pense qu'il faut quand même, enfin, c'est important de consulter des livres qui sont anciens, on va dire, où il n'y avait pas toutes les interférences ou tous les parasites qu'il y a aujourd'hui, hein, de tout type. Donc, voilà, vraiment pour avoir les bases de l'apiculture, je pense que les anciens bouquins, les premiers livres qui ont été faits sur les apicultures, il y a des livres cultes, donc j'ai oublié le nom, mais qui sont vraiment intéressants à lire.
Trop bien. Je sais pas si tu voulais partager autre chose. Bon,
Non, pour moi, c'était assez complet, je pense. Bon, pour l'instant, j'ai pas de regrets du tout dans ma reconversion. Je suis persuadé que c'est la bonne voie. Voilà, maintenant, il me reste à choisir le lieu, à trouver peut-être une exploitation à reprendre avec un parrain. Voilà.
Tu penses le trouver comment le pain?
Alors déjà, par les différents stages que j'ai effectués, il y a une personne qui serait prête à... Enfin, qui cherche un associé. Donc c'est une possibilité. Sinon, oui, par des sites internet comme le répertoire des parts installations ou le bouche à oreille aussi. J'ai entendu quelqu'un qui en Loire qui voulait aussi partir à la retraite et revendre son cheptel. Voilà. Donc en visitant aussi, à Paray-le-Monial, j'ai été là, c'était lors d'un woofing chez une agricultrice qui faisait des petits fruits, donc tout ce qui est fruits rouges, framboises, fraises, etc. Parce que je cherche aussi une activité après à côté à faire. Et puis, bon, c'était toujours intéressant de voir comment elle faisait, comment elle menait son exploitation. Et donc, c'était pas très loin de Paray-le-Monial. Et donc, on était dans cette ville, cette petite ville. Et donc, il y avait un bar à miel. Donc, c'est un concept assez intéressant où on a du miel en vrac, on peut prendre du chocolat chaud, etc., un lait chaud au miel, enfin, toutes sortes de boissons assez artisanales, on va dire. Et avec une multitude de miel aussi en pot, une multitude de produits dérivés. C'est comme ça que j'ai appris que ces gens-là cherchaient à réduire leur cheptel aussi et seraient amenés dans les années à venir peut-être à vendre leur exploitation. Voilà, c'est comme ça, hein, il n'y a pas de secret. De toute manière, c'est en rencontrant des gens et en réseautant, on va dire, qu'on trouve des choses intéressantes ou des choses qui nous intéressent.
Un paramiel, c'est excellent. J'ai connu ça au Maroc, où ben c'était pas un bar à miel, mais c'était une personne qui vendait 20 ou 30 différents types de miel.
D'accord.
Du miel de cactus, du miel. C'était impressionnant. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre.
Je t'en prie, Guillaume.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Le meilleur moyen de me soutenir est de noter ce podcast sur votre plateforme de podcast préférée, que cela soit sur Spotify, Apple Podcasts ou encore sur votre application Android. Je vous serai également très reconnaissant si vous en parlez autour de vous pour faire connaître le podcast. Si l'apiculture vous intéresse parce que vous souhaitez observer les abeilles, récolter du miel ou encore polliniser les plantes près de chez vous, je vous invite à aller sur mon blog mespremièresruches.com afin de recevoir gratuitement un guide de 37 pages qui vous apprendra l'apiculture. N'hésitez pas à m'écrire à guillaume@mespremièresruches.com, je réponds à tous les emails. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, je vous dis à bientôt.